Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 208. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Hey les gars, au dernier podcast, je vous disais que je voulais pas trop me créer de compte Letterboxd puis j'avais pas le temps. J'ai pas plus le temps, puis tu sais, je le tiens pas aussi à jour que d'autres là. Tu sais, j'écris pas des reviews pour chacun de mes films, vraiment pas. J'étais encore en train d'ajouter mes trucs, mais tu sais, c'est tellement pratique pour plein de choses, notamment pour des listes. Et puis j'étais en train de monter, en fait, ce que je veux faire, c'est monter des listes de les programmations complètes de plein écran. C'est un truc que je veux faire depuis longtemps, en fait. L'année 3, elle est prête. Là, il me reste l'année 1, 2 et 4 parce qu'il y a des films qu'il faut que je rentre à la main là, dans le Movie Database, qui n'est pas IMDb, qui est un autre. Là.
OK.
Fait que c'est assez long, mais je trouve ça important, c'est juste pour cataloguer un peu ces éditions-là. T'sais, c'est quand même un projet qui me tient beaucoup à cœur. Mm-hmm. Parlant de plein écran, d'ailleurs, nous, on accueille en ce moment plusieurs festivals là, qui ont dû... des portions de festivals, des mini-sélections. D'événements évidemment qui ont été annulés ou repoussés ou peu importe. Mm-hmm. Il y a deux autres trucs qui s'en viennent en mai. Donc on est super content de ça. Allez voir la page de Facebook de Plein Écran, puis c'est tout le temps gratuit. Puis c'est ça, on est juste une des nombreuses initiatives du genre qui existent. Il y a aussi Danny Lennon là, sur sa page Prends ce cours qui a commencé à mettre un cours à chaque soir à 7h15. C'est comme un petit rendez-vous là, sur la page de Prends ce cours. Ouvert là, à tous, là. Fait que ça c'est très très cool.
Spasme aussi qui fait des super bonnes projections. Ben là je dis projection, ça c'est pas vraiment une projection là, mais des programmations sur Facebook les vendredis soirs aux deux semaines à peu près. Je pense qu'ils en ont fait deux à date. Puis c'est comme des best-of là, des dernières années. Dans le fond, Jarrett Mann, le programmateur, garde tous les films dans son ordi puis fait des programmations sur mesure pour Facebook là, qui peuvent bien s'écouter en ligne puis qui se feront pas flaguer comme contenu indécent sur Facebook, parce que c'est l'autre affaire qu'il faut faire attention avec Facebook. Puis ce qui est le fun, c'est quand même une autre expérience. Tu regardes pas des films avec du monde, mais tu regardes quand même des films avec du monde parce que les gens commentent pendant les films. Fait que, par exemple, moi, avec mon Google Chrome, je vais envoyer le programme sur ma télé, puis là, j'ai mon cellulaire ouvert à côté, puis là, tu sais, tu parles avec du monde, tu regardes quand des amis à toi se connectent, fait que tu peux leur envoyer des messages. Fait que c'est comme, ça crée un autre genre de buzz autour des films. C'est vraiment intéressant, en fait, comme structure. Je prendrais pas tout le temps ça, là. Je m'ennuie quand même de mon écran géant puis de mon siège de cinéma, mais, tu sais, c'est un temps... C'est comme une planète alternative, là, un univers parallèle. Fait que tant qu'à être dans cet univers-là, ça, c'est quand même cool d'essayer des choses puis d'essayer de trouver comment diffuser le cinéma pour le meilleur et pour le pire, là, parce qu'il y a aussi d'autres plateformes qui ont eu plus de difficultés, genre South by Southwest... Je sais pas si vous êtes au courant un peu de ce qui s'est passé.
Ben oui.
Ben en fait, c'est ça, c'est que Amazon ont repris quelques films, la programmation, plus ça fait controverse, mais j'ai pas tout suivi en fait la chose.
Ouais, ben c'est que de ce que j'ai compris, là, peut-être que j'ai pas tous les détails, là, mais c'est qu'Amazon donnait pas des gros montants en fait aux films pour la diffusion, puis la diffusion elle-même était pas très limitée. Tu sais, je pense que c'était un secteur quand même assez large. Fait que ça brûlait des premières, puis ça brûlait des occasions de vendre les films en ligne. Parce que dans le fond, Amazon, il y avait comme du contenu exclusif vraiment cool, là, vraiment très exclusif, puis les gens payaient presque rien pour avoir accès à ce contenu-là. Fait que c'était comme pas un modèle viable, puis ça fait que les films de Slam Dance se sont majoritairement pas tous inscrits. Je vais pas m'aider. Mais de South by Southwest, dans le fond, ils ont majoritairement se sont pas inscrits sur Amazon. Fait que finalement, il n'y a pas grand chose. Puis c'est. Tu sais, ils vont le faire quand même, là, mais c'est pas. Disons que c'est pas le meilleur pour les cinéastes, ni pour les distributeurs, ni pour personne. Fait que c'est comme peut-être pas la solution là, pour l'état présent. Là. Mais il y a des plateformes qui s'ouvrent, là, des plateformes payantes où les gens paieraient comme pour un billet de cinéma, mais pour une location dans un temps limité. Ouais. Ça, c'est des choses qui s'en viennent. Mais...
Et même au Québec aussi, hein, ça, c'est un truc qui est très, très cool. D'ailleurs, si vous voulez encourager, par exemple, le Cinéma du Parc ou le Cinéma Moderne ou le Clap à Québec, vous pouvez, dans le fond, louer un film via leur site web. Mm-hmm. Et le prix du billet virtuel, c'est comme une location Vimeo, dans le fond, là. Mais le prix est partagé entre la salle et le distributeur. Donc ça, c'est comme une bonne occasion d'encourager un tant soit peu les différentes salles, là. Puis aussi, tu sais, il y a toutes sortes de mouvements de ce style-là qui existent, là. Par exemple, tu sais, moi, j'essaie de faire des commandes de livres de librairies indépendantes que j'aime bien, et des trucs comme ça. Donc, si vous pouvez encourager, c'est ça un peu peut-être les cinémas qui vous tiennent à cœur, les organismes, les distributeurs.
Ah ouais. C'est sûr que notre Audima, les gens qui nous écoutent sont sensibles à ça, mais tu sais, effectivement, consommer local, c'est consommer aussi la culture locale, là, c'est vraiment synonyme. Là, donc évidemment, je me surprends à faire plus attention aussi un peu, là, où est-ce que je mets mes sous, qu'est-ce que je commande en ligne, de qui je commande, je sais pas. S'il y a bien une chose qui ressort de ça, c'est peut-être effectivement une genre de conscience sociale par rapport à acheter local, mais incluant effectivement la culture, parce que ça en fait partie. Fait que, c'était mes deux scènes sur ça.
Ben oui, bravo. Et puis, parlant d'essais ratés ou non, ou fructueux, Rémi, parle-nous donc de Nice Try. C'est quoi ça?
C'était un beau... une belle ouverture vers le sujet.
Je pensais que t'allais parler d'un film qu'on va parler plus tard.
Ouais, moi
je
aussi.
Je pensais que t'introduisais quelque chose qui s'en vient. Là.
J'en avais parlé au dernier podcast, mais ça continue en fait. Fait que j'invite les gens à y aller. C'est une page Facebook qui s'appelle Nice Try Bel Essai. C'est des artistes qui vont s'inscrire là-dessus, puis ils ont 48 heures et une thématique ou dans le fond un truc à respecter. Puis les artistes livrent un peu ce qu'ils veulent, l'œuvre qui est de la durée qu'ils veulent. Ça peut être une œuvre hors cinéma. Je sais qu'il y a eu une œuvre que c'était quelqu'un qui s'était déguisé en arc-en-ciel puis qui se promenait dans les rues de Montréal. Puis il y a plein de photos qui ont été prises de ça. Okay. Puis il y a plein de cinéastes qui participent, des cinéastes qui se mettent en danger un peu. Puis dépendant de la contrainte que t'as, ça peut te mettre un peu dans la merde. Là, moi, il a fallu que je fasse un stop motion. Comme en 48 heures, puis je m'attendais vraiment pas à faire ça, puis je suis pas tant équipé pour faire du stop motion. Fait que j'ai vraiment improvisé quelque chose de ça, là. Ça s'est fait tout seul. Il y a Alec Pronovo aussi, réalisateur de courts-métrages, entre autres, puis de la web-série Le Killing, qui a fait un genre de faux documentaire où je gage que ces acteurs se sont filmés eux-mêmes en confinement pour faire leurs fausses entrevues. Super habile, c'est vraiment, vraiment un petit bonbon du web. Là. Ça peut juste exister dans ce contexte-là, dans ce projet-là. Donc voilà, puis c'est gratuit, c'est à tous les soirs. Il y a un nouveau court-métrage qui sort. Je vous le recommande, Nice Try. Nice Try, c'est ça.
Ouais, puis on vous invite à même commenter, hein, puis à nous dire, à nous envoyer les liens de si vous avez d'autres trucs comme ça qu'on pourrait mettre un peu sous le spotlight. Voilà. Une question que j'avais pour vous, les gars, j'ai pensé à ça, en fait, juste avant qu'on commence l'enregistrement. Mais, tu sais, le calendrier 2020, en ce moment, de sortie au cinéma est vraiment comme chamboulé, puis on a l'impression qu'il n'y aura comme plus de sortie, du moins, au minimum, jusqu'à la fin de l'été, là. Puis je me demandais, si, tu sais, vous, est-ce qu'il y avait un film, là, que vous aviez vraiment envie de voir, puis là, comme, qui est repoussé à 2021, ou... Tu sais, c'était quoi, mettons, le film, là, que vous êtes déçu, que vous pourrez pas voir dans les prochaines semaines.
C'est vraiment drôle que tu dises ça. Moi, là, depuis Sundance, avant, en fait, depuis la bande-annonce qui avait sorti en deuxième moitié de 2019, j'attendais beaucoup le film Wendy de Ben Zeitlin. Puis là, un peu out of the fucking blue, là il est genre... Il est en VOD, en fait. Et on peut le louer maintenant. Là. Donc, d'ici le prochain podcast, évidemment, je vais l'avoir vu parce que c'est un des films que j'attendais beaucoup. Ayant beaucoup aimé Beast of the Southern Wild, ça fait quand même quoi, 8 ans? C'est 8 ans plus tard à peu près, parce que Beast, c'est 2012.
Il y a comme pas une grosse rumeur, Wendy. C'est un peu bizarre qu'il soit déjà sorti et qu'on n'en entend pas plus parler que ça.
C'est
sûr
je
que la
pas.
Situation aide pas, là, mais...
Je sais que, moi, la bande-annonce m'avait... Tu sais, c'est rare qu'une bande-annonce m'avait autant fait saliver, là. Puis en plus, tu sais, Ben Zeitlin fait aussi sa musique, puis il y a comme quelque chose de reconnaissable. On dirait qu'on était tout de suite dans des pantoufles intéressante là, avec ce film-là, juste de par la façon comment il filme les enfants, l'espèce d'univers libre avec la musique par-dessus, très enfant fort. Là. C'est ça, fait qu'il y avait Wendy. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que là s'il n'y a pas... Tu sais, là, à ce temps-ci de l'année, on a eu la conférence de presse. On aurait eu la conférence de presse de Cannes. Ouais. Donc on aurait déjà, vois-tu, mi-avril, fin avril, on aurait déjà un peu l'échiquier ou une partie de l'échiquier des films à venir. Juste de reporter cet échiquier qui est là, ça crée un genre de flou étrange. On dirait qu'il y a comme pas... Je ne sais pas quels films sortent Tu comprends ce que je veux dire?
Moi, je suis zéro au courant. Là. Mmh. J'ai vu les grosses sorties reportées, mais c'est tellement difficile à suivre présentement. Mmh. J'ai comme un peu coupé les nouvelles cinéma. On dirait que je prends pour acquis qu'il n'y a rien qui va sortir, puis je vais être content quand ça va revenir. Là.
C'est ça. Fait que je peux pas dire, je peux pas y répondre adéquatement à la question, mais peut-être que toi, tu te gardes beaucoup à jour par rapport à ça, Paul. Là. Toi, tu en as une réponse à ta question.
Ben, lui, ça va être Fast and Furious, c'est sûr. No surprise.
Non, mais ben, c'est sûr que moi aussi, je continue mon travail au sein de chez Diffus, en distribution numérique. Donc, c'est sûr que je suis comme très au courant de ce qui s'en vient, puis on a plusieurs clients, de plusieurs distributeurs, tout ça. Mm-hmm. Mais moi, perso, c'est vraiment The Green Knight de David Lowery.
Oui, ça a l'air vraiment cool, t'as raison.
Tu sais, qui nous a donné A Ghost Story. Ouais. C'est un film de A24, là. C'est une espèce de film médiéval fantastique, là, mm-hmm. Qui ressemble un peu à la Game of Thrones, on va dire, là.
Ouais.
Pour faire très court.
Avec
et
Timothée,
puis,
avec notre préféré, ouais. Timothée. Là, ouais.
Ben, entre autres, là, ouais, puis la bande-annonce était sortie ça quelques... C'est comme... Je me rappelle très, très bien que la bande-annonce était sortie. Puis là, au bureau, j'ai comme dit à mes collègues, « Venez voir ça, ça a l'air vraiment bon. » Puis on l'a regardé comme 3-4 fois de suite, là, j'ai montré à différents collègues. Et c'est comme une des dernières bandes-annonces que j'ai vues avant la session du confinement, là. Et bon, là, évidemment, je pense qu'il n'y a plus de date de sortie pour ce film-là. Ça sera éventuellement quand la situation sera réglée. Mais ça a vraiment l'air bon, là. Puis on dirait que c'est mon genre de film, là. Vraiment, un film de genre, mais d'auteur, là, comme super bien fait. Puis il y avait comme des effets de montage, là, qu'on voyait, tu sais, qui avaient pris racine déjà dans Ghost Story, puis qui sont comme encore plus poussés là-dedans. Donc, ouais, ça, j'ai très hâte de voir ça, ça puis tant d'autres, là, mais celui-là en particulier, très, très hâte.
J'ai une liste sous les yeux, puis il y a le French Dispatch de Wes Anderson qui est reporté.
Ah, ben oui.
Ouais. Ça, si je peux en flaguer un, il y a ça, puis sinon, bon, c'est un peu, c'est un gros film, là, mais de Batman, là, je suis quand même hype, tu sais, je suis plus vraiment hype pour des films de super-héros, mais un film de super-héros de Matt Reeves, on dirait que j'ai comme vraiment le goût de voir ça, là. Ouais. C'est le gars qui a ben... Bon, il a participé à la trilogie de Planet of the Apes, la nouvelle trilogie. Il a pas fait le premier, qui est d'après moi le moins bon des trois. Hey,
c'est ça, hein? Que je devrais écouter pendant mon confinement, même, parce que je ne connais pas vraiment les nouveaux Planet of the Apes. Puis Paul, t'arrêtais pas de me harceler qu'il fallait que j'écoute
ça. C'est bon, ça.
Je me cherchais une genre de franchise comme ça, tu sais, comme des bons films, mais le fun, tu sais.
Ouais, puis le meilleur, je pense, c'est le 3, puis c'est... Je sais pas si ça va être de mon avis, mais c'est quand même un bonbon de builder vers ce film-là. Là. C'est... Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis, tu sais, c'est des films qui devaient pas marcher. Puis, avec la patte de Matt Reeves en arrière, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, il y a vraiment une signature unique. Fait que je me dis, si lui prend de Batman, je lui fais entièrement confiance. Puis, je pense que ça pourrait peut-être ramener le héros d'une autre façon que dans les cochonneries qu'on a eues dans les dernières années. Là. Avoir quelque chose d'un petit peu plus raw. Là. Yeah! Fait que moi, j'ai hâte à ça.
Ouais, non, ça a l'air très, très cool. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Puis il y a aussi le tournage était comme en production. Puis le tournage est annulé pour le moment. Là. Mm-hmm. Même chose pour la Matrix 4, en fait, qui était en tournage à New York, je pense, entre autres, ou à San Francisco, je sais plus trop. Il y avait eu des images qui avaient circulé dans une grosse métropole. Mais voilà, on verra ça éventuellement. Mais en attendant, on écoute des trucs à la maison, évidemment.
Et beaucoup de trucs à la maison.
Oh my God!
Ouais. Puis, on revisite des classiques, on voit des films qu'on n'a pas vus depuis longtemps qu'on aurait dû, on explore des nouveaux trucs. Notamment, Rémi.
Oui?
Tu t'es dit, hey, c'est le temps ou jamais d'attaquer le sous-genre. Je pense qu'on peut parler de sous-genre rendu
là. Ouais, c'est un genre en soi.
Parce que c'est quand même un corpus imposant des nombreuses et multiples... adaptation de l'œuvre de Stephen King, le maître de l'horreur.
Hey, tellement! ça aussi, je vais dire pour le meilleur et pour le pire, là, parce que ça passe dans toutes sortes de registres et toutes sortes de degrés de qualité.
C'est quasiment son propre univers en soi. Là. C'est le MCU avant le MCU, le Stephen King universe.
Puis lui, un peu comme Stan Lee, apparaît dans plusieurs de ses adaptations dans des petits rôles. Puis beaucoup de films se passent à Castle Rock ou mentionnent Castle Rock. Il y a plein de trucs qui connectent les films dans un même univers. Fait que c'est quand même assez intéressant, mais ouais, ça passe du 5 étoiles à 0. Là. C'est vraiment, le range est immense.
C'est quoi le pire? C'est quoi la pire cochonnerie que t'as vue?
Hey, je l'ai vu la semaine passée. sais, là, j'ai vu Dolan's Cadillac. T'as-tu vu ça, Paul?
Non, pas celui-là.
Parce que
non.
Je sais que Paul, il a commencé à faire des... je sais que tu avais commencé à le faire il y a une couple d'années. Je pense que tu avais comme une liste sur ton frigo avec toutes les adaptations de Stephen King. Puis je m'étais dit, à un moment donné, je vais faire ça. À un moment donné, puis écoute, un confinement, c'est la meilleure place où attaquer Stephen King. Parce qu'il y a bien des films que tu peux aussi écouter complètement brain dead. Puis t'as une satisfaction autour de ça. Mais... mais reste que moi, je suis un très bon public pour ça. Fait que je leur donne un petit peu plus de chance. Je pense que ben du monde vont leur donner. Je trouve mon compte quand on tombe dans le Stephen King cheesy, autant que dans les Stephen King mieux faits, là, des films plus
achievés. Ouais, des prestigieux, là.
Mettons un Shining, c'est peut-être dans les meilleurs qu'il a fait, mais c'est ça, Dolan's Cadillac, c'est tellement poche, mais en même temps, il y a comme, c'est tellement stupide, puis il y a tout le temps un personnage un peu plus grand que nature qui vole la vedette, puis dans celui-là, Dolan's Cadillac, ben c'est, attends, c'est notre boy, comment il s'appelle? Ah, c'est...
Christian Slater.
C'est notre boy Christian Slater, c'est ça, puis c'est pas un film d'horreur.
True Romance Slater.
Oui, puis en plus, je me suis tapé True Romance avant-hier, fait que... Ouais, je suis dans cette vibe-là. Puis ouais, c'est un revenge story, là, vraiment, vraiment pourri, là. C'est fait avec très peu de budget, puis c'est un gars qui essaye de trapper l'homme qui a tué sa femme, puis de lui faire de se venger dessus. Je veux pas gâcher la fin du film parce qu'il y a quand même une trappe crissement cool pour le pogner vers la fin du film. Tout build vers ça, mais la première heure, c'est juste du revenge story ben traditionnel. Pourquoi je le classe au plus bas, c'est que c'est peut-être le film où il y a le moins de Stephen King d'esthète à la Stephen King, là. Y a pas de fantastique dedans, puis je trouve pas mon compte avec des monstres en latex ou de la mauvaise réalisation ou des petits clins d'œil. C'est juste comme un peu plus plate que les autres, je vous dirais.
Ça manque de cœur puis de trip un peu, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Parce que j'ai écouté aussi, entre autres, j'en ai écouté 6 récemment, je vous en parlerai pas de toutes, là. Puis je vais continuer dans les prochains temps.
Thank God.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai vu Sleepwalkers où il y a des werecats dedans. C'est un Stephen King avec des werecats. Fait que c'est des gens qui se transforment en genre d'homme-chat ou femme-chat.
Est-ce qu'ils ont
des chats-garous.
Est-ce qu'ils ont un butthole ou pas? C'est ça la question.
Belle référence.
Puis très très bonne référence. Très bonne référence. Puis oui, c'est ça. Sleepwalkers, c'est une des adaptations de Mick Garris qui a fait 7 adaptations de Stephen King en tout. Oh, ouais. Mick Garris, qui n'est pas un très bon réalisateur, mais qui est un très bon rassembleur. Il avait fait entre autres la série Masters of Horror où il a donné une chance à plein de réalisateurs comme Wes Craven puis John Carpenter de refaire du cinéma puis de refaire des œuvres. Certains que c'était dans leurs dernières œuvres d'horreur qu'ils ont fait, mais c'est ça, c'est pas un très bon réalisateur, mais il y a des bons effets spéciaux au travers, puis des effets spéciaux de monstres en latex un peu cheapettes qui sont bien le fun à voir. Il y a des scènes où il y a le petit caméo de Stephen King, il y a un caméo de Joe Dante au travers, c'est tous ses amis, fait que il plug ses amis à travers son film, puis c'est un beau petit Stephen King que tu regardes bien batté là, un vendredi soir. C'est pas mal ça que je dirais. Puis le dernier que je voulais vous parler, je veux faire controverse, puis je vais peut-être nous faire perdre des auditeurs. Je veux vous parler du film In the Tall Grass.
Oh,
j'ai pas vu ça.
Production Netflix originale, sorti il y a quelques mois, mais il n'y a pas longtemps, en l'automne dernier.
C'était comme, ouais, c'est ça, puis c'est réalisé par Vincenzo Natali qui avait fait Cube.
Ah, Cube, ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, c'est encore un film à concept, ce qui est un peu dangereux parce que tu veux pas être le gars qui fait juste des films à concept, mais bon, ça a l'air qu'il est tombé dans cette case-là.
Hey, je veux pas couper ton élan, mais Splice, là, c'était quand même bon, hein?
Ouais, c'était quand même bon, ça.
Ouais, ok, non, c'est ça, je suis pas fou, hein, de trouver ça, non?
À mon souvenir, c'était quand même cool.
Ben, c'est ça, avec Sarah Pauley, qui joue la comédienne principale dans le film, en tout cas. Mais ouais, excuse, continue.
Ouais, puis Adrian Brody, aussi, qui est un scientifique, là, qui fait l'amour à une créature fantastique.
Ouais, c'est
bon. Donc, c'est ça, puis In the Tall Grass, ben, en gros, c'est comme un épisode de Twilight Zone qui dure 1h40. C'est du monde qui sont pognés dans un champ d'herbe. Fait que c'est pas mal ça la prémisse, mais embarque là-dedans des twists and turns où ils vont entendre des personnages qui appellent leur nom, puis ils vont croiser d'autres personnages qui viennent d'arriver dans le champ, Ils vont trouver des corps qui sont qui appartiennent peut-être à d'autres personnes qui ont vu avant. La temporalité va se mélanger et ils vont se perdre dans ce fouillis. Je veux juste mentionner que sur Letterboxd, le film a présentement 2.4 sur 5 et notre collègue Olivier Bouchard lui a donné 1 sur 5 en disant que c'était un des pires films qu'il a vu de cette année-là. Fait que je veux juste dire que mon opinion, quand je dis que je suis facile à vendre sur les adaptations de Stephen King, c'est peut-être là que ça, que ce descriptif-là rentre en compte. Parce que moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était super divertissant comme mise en scène. Il a réussi à rendre ça pas plate de se promener dans un champ d'herbe pendant tout un film. Des belles shots où il va dynamiser l'action. Puis, il y a Patrick Wilson, qu'on connaît pour la franchise The Conjuring et Insidious aussi, qui fait son nom en horreur dans les dernières années, qui fait un gars qui est pogné aussi dans le champ, parce qu'ils sont tous pognés dans le champ, puis qui va avoir une petite touche Jack Torrance qui va s'installer en lui à travers le film. Puis il n'y a rien de mieux que voir un Patrick Wilson en forme qui devient complètement psycho. Moi, j'ai eu du fun. C'est pas... Il y a pas mal d'affaires stupides au travers aussi, mais je trouve que la réalisation était assez efficace, puis c'était un no-brainer Netflix. Mais ça a l'air que ça fait pas l'unanimité, fait que haïssez-moi pas trop, s'il vous plaît, si vous prenez ma recommandation.
Ça, c'est quasiment un genre en soi, hein, les espèces de films d'horreur qui se passent dans les champs de blé, dans les fermes rurales. Tu sais, on pense à, évidemment, Children of the Corn, mais aussi Sing, de M. Night Shyamalan, même Tom à la ferme. Tu sais, c'est
ouais,
ces
films-là, genre... Même Quiet, là, voyons, c'est quoi le titre de ça?
A Quiet Place?
Ouais, c'est ça, c'est ouais, ça, ouais, ça se passe ouais. pas aussi, là.
C'est dans une ferme, il semble qu'il y a un bout, ils sont pognés dans un silo de grains, là. D'affaires de même, là. C'est aussi un autre film reporté, Quiet Place 2, Mais c'est ça devient un genre en soi. Puis même lui a fait un autre film en huis clos comme ça que j'ai regardé récemment parce que j'ai tellement de temps récemment. C'est ça, son film Nothing où c'est deux gars qui sont pris dans le néant. Fait que leur maison flotte dans le vide, puis eux, il n'y a plus rien autour d'eux. Mais ça, par contre, j'ai pas tant aimé ça, puis j'ai trouvé que ça avait l'air d'un court-métrage qui a été étiré sur un long. Là, une bonne idée de court-métrage un peu trop étiré, où il manque un petit peu trop de moyens, là, mais ce sera une autre histoire, parce que j'ai déjà pris assez de temps pour parler de Stephen King. Mais là...
Mais par hasard, Rémi, moi j'ai des questions. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de voir le reboot de la série Creepshow sur Shudder?
Hey, pas encore, mais ça, je suis vraiment un fan du film original.
Parce que je pense que ça peut-être que ça, parce que depuis tantôt, tu dis, on aurait dit un épisode de Twilight Zone, ou c'est un cours qui était tiré, tu sais.
Ouais.
Puis justement, un concept comme ça d'anthologie où on n'a pas trop à se casser la tête, puis au pire, si c'est un peu niaiseux, ça dure 40 minutes, là, tu sais. Puis une façon aussi d'aller chercher plein de réals pour justement, comme Mike Garris, tu sais, pour leur donner des chances, puis pour former des jeunes aussi, tu sais, fait que je serais curieux de voir le reboot, justement, a eu quand même une très bonne accueil critique, puis il a déjà été renouvelé, je pense, pour la... Ouais. Là, je pense qu'on est à la troisième saison, là, c'est comme la plus grosse production, finalement, de Shudder, là, parce que c'est vraiment comme un truc original à eux, là.
Ouais, puis ça marche, parce qu'ils l'ont vendu aussi à l'extérieur, puis c'est comme des... Il y a des make-up artistes vraiment connus qui chapeautent ça, dont Greg Nicotero, qui est connu pour son travail sur Walking Dead. Là. Il a fait il a supervisé la majorité des effets de maquillage sur Walking Dead. Fait que tu sais, c'est des grosses pointures.
C'est un producteur exécutif aussi.
Ça a l'air vraiment bon, effectivement. Puis il y a même la série Castle Rock à Manic, qu'il va peut-être falloir que j'en vienne là. La série qui est basée sur l'univers entier de Stephen King. Il y a plein de ses personnages qui popent au travers. Mais pour vrai, j'ai plein de DVD en stand-by de ces films qu'il faut que je regarde. Puis il y en a sur Netflix que j'ai pas encore vu. Là, je viens d'écouter les derniers que j'ai vus. J'ai vu Pet Sematary, critique rapide. J'ai trouvé que ça a très bien vieilli. C'était peurant, c'est cheesy par bout. J'ai adoré ça. J'ai regardé Pet Sematary 2. Qui existe, oui, il existe en 3 ans après le premier, la même réalisatrice est revenue. Ça soque pas mal, puis c'est avec Edward Furlong qui est un an après Terminator 2. Fait que c'est...
Ah ouais, ok.
Ouais, mais écoute, ça a pas dû faire du bien à sa carrière parce que c'est vraiment tout est moins bon que le 1. C'est full formaté. Là. J'ai lu à quelque part que le studio avait donné, t'sais, dans le fond, ce qu'il voulait comme scénario, puis elle a pas vraiment pu faire l'idée qu'elle voulait, la cinéaste. Fait que Mary Lambert, qu'elle s'appelle, puis fait que dans le fond, elle a fait comme un film qui est assez, assez moyen, là. Mais c'est ça. Puis là, le prochain, que je vais probablement vous parler dans un autre podcast, à moins que ça soit vraiment médiocre, à moins que ça soit le fun d'en parler si c'est médiocre, mais le Pet Sematary Remake. Fait que je suis rendu là, là dans mon pèlerinage.
Puis on salue d'ailleurs notre ami, parce que Simon Théberge a travaillé sur les décors du remake.
Ah, j'étais pas au courant, mais écoute, je vais critiquer surtout ces décors.
Puis l'autre chose que je vais te demander, Rémi, c'est... moi, c'est un film, ça fait longtemps que je me garde, on dirait, pour comme le bon moment, là, genre une soirée entre amis, éventuellement, quand ça se passe
à nouveau. Vous geekez tellement, là, les gars.
Ah oui, c'est clair.
En ce moment, là, vous êtes de votre ligue, là.
Ouais, excusez.
C'est bon,
ah, Pascal, t'es encore là, excuse-moi, j'avais oublié. On n'est pas sur la même prime.
Pascal qui est comme, j'écoute la filmographie de Romère, puis je sais pas quoi, puis moi, je suis comme, moi, j'écoute Stephen King.
Non, on s'en parle après. Moi, je suis sur une drôle de phase là, ces temps-ci, mais en tout cas, ouais, excuse, continue à geeker Stephen King. Là. Ouais, go.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un film que je me garde là, pour une bonne occasion, mais je me demandais, Rémi, si tu avais déjà vu le film Maximum Overdrive, réalisation de Stephen King.
C'est là, même moi, je sais quoi, puis je l'ai vu. Là.
Ah oui, c'est un délice quand même. Là. Ça, c'est du So Bad That It's Good, mais tu vois, c'est pas dans mes pires parce que c'est tellement le fun. Là. Genre, c'est sûr que c'est un des pires films de tous les Stephen King, mais ça sera jamais au bottom de ma liste parce qu'il y a un gars qui se fait tuer par genre une machine qui pitche des canettes dessus, là, une machine distributrice qui lance des canettes de coke. Je pense que c'est même Stephen King qui a ce rôle-là. Puis Stephen King, il en parle en entrevue de ce film-là. Il dit qu'il se souvient pas du tout du tournage parce que c'était exactement dans la période où il était beaucoup trop coqué. Fait qu'il a aucun souvenir de la production, puis c'est lui qui l'a réalisé. Puis juste pour l'introduire, là, je vous recommande vraiment d'aller voir la bande-annonce sur YouTube. C'est Stephen King qui fixe l'objectif puis qui pointe le spectateur en disant « I'm gonna scare the shit out of you ». C'est malade. Fait que, puis ouais, en tout cas, au Québec, si vous trouvez ce film-là, c'est VVS qui distribue, puis le DVD il est seulement en français. Vous avez même pas la piste anglaise. Fait que « deal with it, bitch ».
Yeah.
Voilà.
Deal avec, salope.
Et voilà.
Bon, toi, de ton côté, Pascal, au lieu de délecter de l'univers macabre de Stephen King, tu changes de continent puis tu découvres pas mal Bollywood, là, dernièrement.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est parce qu'écoute, là, moi, j'étais un OCD un peu de liste, tu sais, puis...
Ah ouais?
Là, je suis retourné voir le top 250, puis tu sais, on dirait que j'ai regardé de haut là, de IMDb, là. Hey, ça faisait longtemps là, que j'étais pas allé fouiner là. Puis là, tu sais, ça a été un peu envahi là, par les méga productions.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le top 250, dans le fond, il évolue au fil du temps, parce que c'est un top organique, puis dans le fond, les usagers peuvent voter pour n'importe quel film,
oui,
et donc c'est comme, à chaque jour, ça change.
Exactement, puis tu sais, clairement, depuis peut-être 5-6 ans, il y a comme eu un afflux de gens qui ont vu ces films-là, qui apprécient ces films-là, puis fait un œuf, c'est bien correct. C'est juste que c'est comme une histoire du cinéma parallèle. On en parle plutôt peu, des films de Bollywood. On les prend un peu à part. On dirait qu'ils se mélangent pas trop avec l'autre cinéma mondial, d'une certaine façon, tu sais.
Alors que c'est une des plus grandes productions au monde. Là,
ben absolument, absolument. Puis, je n'avais vu quand même un que j'avais trouvé sympathique, là, fut un temps, c'était « Trois idiots ». Qui est aussi là, genre coté dans le top 100 d'IMDb, je sais pas trop, là, je pense, ça vaut tout ça, non, mais écoute, c'était pas pire, puis c'était drôle, puis tu sais, il y a tout le temps, c'est parce qu'il y a un côté ensoleillé, il y a un côté extrêmement crowd pleaser, tu sais, mais vraiment là,
by design.
Ouais, tu sais, c'est même le blockbuster hollywoodien va pas est pas aussi alléché de te satisfaire puis de te flatter dans le sens du poil tout le temps.
On dirait que c'est un peu le reflet de l'âge d'or d'Hollywood puis des grandes épopées à Technicolor, des musicals, de ces films-là très généreux. Là.
Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, okay, sans sonner condescendant, effectivement, il y a quelque chose qui fait que il y a des moyens, oui, mais il y a un petit côté primitif dans le storytelling ou dans comment que les émotions, tu sais, c'est souvent un peu mielleux, c'est évidemment les ficelles sont très très grosses, bon, tout ça, mais quelque chose de quand même de généreux. Puis tu sais, mettons le film indien qui a vraiment un peu explosé à Bollywood fut un temps, c'était un film qui s'appelle Lagan, il était une fois en Inde, qui a été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2001. Puis, tu sais, mais c'est une épopée de 3h40, pas possible, là, historique, là, qui se passe à la fin du 19e siècle et tout. Puis, c'est comme si le calque des grands films épiques, là, il est comme resté. Tu sais, le Bollywood moyen là, que, auquel je me suis frotté, là, c'est 2h40. Là. Tu sais, c'est des gros films. Tu t'embarques dans une ride, mon chum. Là. C'est vraiment
avec
ça.
Avec 4 vidéoclips au travers. Là.
Ouais, ouais 4, mon gars. Non, 15. Puis si je vous dis American, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Ben, je sais que la famille Khan, c'est censé être une des plus grandes familles, plusieurs acteurs et réalisateurs là-dedans. Là, ouais. Non?
C'est pas le méchant dans Star Trek 2, ça?
Non, il y a deux A. A-A-M-I-R-K-H-A-N, si jamais vous le stalkez pendant que j'en parle. Lui, là, à un moment donné, j'ai comme fait une corrélation. Okay? Vraiment, on dirait que je redécouvre tu sais, comme je suis vierge là, d'un courant. Là, puis là, genre, je le découvre, là, mais comme quand j'avais 17 ans, puis comme je découvrais mes premiers, mes classiques, puis j'avais aucune idée c'était qui David Lean, puis Scorsese, puis tout ça. Bon, bref. Puis American est dans toutes les crises de films bollywoodiens qui sont genre dans le top de IMDb. Là. Puis c'est un acteur qui, selon les standards de l'Inde, tourne relativement peu. Mais c'est-à-dire, il tourne toujours dans genre le gros film. C'est le prochain méga monstrueux film. Puis American...
Le Rémi Girard.
C'est ce que j'allais dire!
Non, mais vu que Bollywood est quand même la force qu'elle est au niveau même monétaire et tout... Ce gars-là, c'est genre, c'est un mania, là, tu sais, d'une certaine façon, parce que c'est pas juste un acteur, c'est là où je veux en venir. Écoute, il a réalisé un film qui s'appelle, le titre anglais international, c'est Like Stars on Earth, en 2007, qui est un méga succès en Inde, aussi un des grands films bollywoodiens cotés, tout ça. Il l'a réalisé, il a réalisé d'autres films, mais il a fondé sa compagnie de production à l'époque de, il était une fois en Inde en 2001, American Productions. Puis, toutes les méga hits là, qui débordent à chaque fois qu'il y a un nouveau film d'eux autres, c'est comme le Studio Ghibli au Japon, ou c'est comme, tu sais, c'est comme, c'est niche relativement parce Luc que Besson, ça s'adresse un peu plus au pays et tout. Mais c'est ça, là, là-bas, tout le monde capote leur vie sur Amir Khan. Puis, là, moi, j'avais vu 3 idiots, j'ai trouvé ça pas pire, j'ai écouté Like Stars on Earth, je trouvais ça mielleux, là, tu sais, c'est comme si l'histoire, c'est sur lui, il joue un enseignant, là, un peu Patch Adam-esque, là, qui est comme, qui a des bonnes méthodes, là, pour les enfants, tu sais, on suit un jeune qui est dyslexique, puis évidemment, ben, il se fait dire que c'est un bon à rien, puis qu'il ira nulle part dans la vie, mais là, dans le fond, parce qu'il y a un enseignant gentil, là, qui a des techniques, tu sais, qui fait danser les étudiants, puis tout ça, et il découvre son plein potentiel, tu sais, c'est à peu près ça, la trame, puis ça dure 2h40, puis le professeur arrive à 1h dans le film. Bon. Fait que c'était un peu décourageant. Mais là, je suis tombé sur le Saint Graal du Bollywood, les amis. Et je ne pourrais vous le conseiller plus. C'est avec Amir Khan, produit par Amir Khan Productions, bon, tout ça. C'est le film Dangle. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Non.
Okay. Vraiment pas.
OK. Ça dure 2h40. non, mais... OK, pour vrai, là, genre, je suis embarqué là-dedans. Moi, j'aimais la prémisse. Je m'en allais pas nécessairement de découvrir Bollywood, là, outre mesure, mais... Je trouvais la prémisse intéressante. Bon, je viens de faire un film de sport avec des athlètes femmes mises en scène. Puis il y a quand même peu de films de sport qui mettent en scène des femmes quand même. Puis ça, c'est une histoire vraie, mais comme ultra méga romancée, crêpée, cheesy, pas possible, beurre épais. Là. Mais sur l'histoire d'un père dans un petit village qui élève ses filles, qui a toujours. Lui, c'est un ancien lutteur professionnel, la lutte olympique, là, gréco-romaine. Là. Pas la lutte WWF, on s'entend. Puis là, il y a pas de fils, lui. Il y a juste des filles. Puis là, il est bien découragé de ça. Puis là, il met son rêve un peu de que son fils un peu suive le flambeau. Il met ça de côté. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ses filles sont assez badass. Là. Il tabasse un petit gars à l'école. Puis là, lui, au lieu de les gronder, il fait comme « Oh shit, OK. » Puis là, il a une idée, tu sais. Puis là, il craint ses deux filles pour comme qu'elles deviennent des lutteuses, tu sais. Puis le film se passe sur plusieurs temps, tu sais, le temps file, puis tout ça. Puis c'est l'histoire vraie, en fait, des vraies lutteuses qui ont gagné des médailles internationales. Tu sais, ils ont recréé, par exemple, les Jeux du Commonwealth qui ont eu lieu à Delhi, en Inde, en 2010, ouais, je pense. Puis il y a des scènes de sport, de lutte, là, genre des femmes, tu sais, mais elles sont crissement bien chorégraphiées, vraiment ça accroche. Puis à la fin, j'étais comme, my God, quelle belle ride cinématographique. Tu sais, j'ai vraiment comme, je sais pas, là, je venais de voir, j'étais émerveillé, j'ai eu du fun, j'étais même emo à la fin, là. Non, sérieux, là, c'est comme, moi, là, c'était une tête et demie au-dessus de n'importe quel autre film. comme de cet ordre-là. Puis tu sais, je regarde sur IMDb, il est 8.4 sur 10, tu sais, c'est comme, il est 93e dans le top 250, puis je suis comme, pour vrai, ouais, pour vrai, oui, tu sais, il mérite d'être là.
Ouais, parce que les films de Luther aussi, c'est quand même un sujet assez précis, puis il n'y a pas beaucoup de films là-dessus, tu sais, on pense à Foxcatcher, mais
ouais.
À part ça...
Non, c'est ça, c'est ça, mais...
Nacho Libre.
Puis Amir Khan, il joue le père de ces filles-là, puis tu sais, il a beefé up comme un mongol, là, tu sais, il a fait un Christian Bale de lui, puis là, il est comme méconnaissable, parce que d'habitude, il joue des rôles évidemment full différents, là, tu sais. Il est bien méthode acting. En tout cas, fait que Dangle, c'est pas Amir Khan qui l'a réalisé, c'est sa compagnie qui l'a produite, mais c'est le réalisateur, c'est Nitesh Tiwari. Puis, sans farce, si vous voulez faire une excursion vers Bollywood, allez voir ça. Voilà.
C'est dispo sur Netflix aussi.
Ouais, ben c'est ça. Coproduction avec même c'est Disney qui distribue à l'international. Fait que tu sais, c'est gros là.
Puis je voudrais t'entendre aussi parce que moi, ça faisait des années quand même que je te parlais du film Gangs of Wasseypur. Une espèce de réponse à Bollywood, là, plus sur le modèle scorsésien de trafiquants là, dans des mines à Wasseypur.
Oui.
Puis c'est un cinéaste que j'ai vu aussi, deux autres de ses films, je pense, Anurag Kashyap, qui est un cinéaste très prolifique, mais tu sens l'Indien qui tripe sur le cinéma américain. C'est un peu comme un Kurosawa, c'est le moins japonais, peut-être des cinéastes.
Oui. Ta comparaison est le fun. Ça exorcise pas complètement peut-être des tics d'un certain cinéma bollywoodien. Écoute, je suis pas un expert, là. Je dis de ce que je connais et de ce que j'ai vu, mais t'sais, dans les choix de musique, il y a des ficelles qui sont grosses, il y a des ralentis cheesy, mais... Pour chaque moment comme ça, il y a des moments, là, tu sais, vraiment, tu dis Scorsese, tout ça, je pense notamment, il y a une scène d'ouverture qui est hallucinante, là, tu sais, un genre de plan-séquence des gangsters qui s'en vont faire un raid dans la maison d'un autre homme, puis là, il y a un retour temporel ensuite, puis c'est comme le film converge, c'est comme un élément un peu, une scène clé de la saga, parce que c'est une saga, là, tu sais, c'est un film, c'est deux fois quasiment trois heures, là. Ça y va, puis c'est sur trois générations, là, je veux dire, le père, le fils et ses fils, là, c'est ça, là, tu sais, c'est entre ça ou écouter Godfather 1 et 2 de suite, c'est à peu près le même epicness, là. Mais j'ai beaucoup aimé, en fait, puis je sais que tu me le conseillais chaudement depuis longtemps. Écoute, j'ai peut-être pas trippé à la même mesure que toi, mais je veux dire, écoute, ça m'a occupé pour la journée, puis c'est une méchante ride, là. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai beaucoup aimé ça.
J'avais vraiment aussi un bon contexte, dans le sens que j'avais découvert au TIFF, comme par hasard. Je me suis dit, je vais prendre une chance. Je connais pas beaucoup de cinéma indien.
C'est ça.
Puis je suis rentré là, une séance de 6 heures, c'est les deux back-à-back.
Ouais, c'est 5h30,
C'était assez incroyable, là, de voir ça. Puis, tu sais, le cinéaste sur place, puis... Tu sais, il y a quelque chose... Tu sais, j'ai toujours des bons souvenirs de ces cinéastes-là que je découvre pour la première fois. Il y a toujours un espèce de parti pris, là, comme si... Tu sais, comme un peu tous nous autres, c'est quoi ton premier Kubrick que t'as découvert, ton premier Bergman. Tu sais, il y a quelque chose de sacré, un peu.
Oui, absolument. Ah oui, puis effectivement, puis je pense que, tu sais, faut... Lentement, mais sûrement, faut déstigmatiser un petit peu le cinéma indien. Parce que, tu sais... Fut un temps, là, mettons, dans les années 50-60, quand on parlait, mettons, d'un cinéaste comme Satyajit Ray, il n'était pas considéré comme un sous-cinéaste du tout, là, tu sais, je veux dire, de certains de ces films-là, de ces cinéastes-là des années 60, mettons, ils ont fait des films, des grands films du canon consacrés, puis on dirait que, je sais pas, tu sais, il y a comme années 80 et plus, jusqu'à ce qu'on dirait que là, ça réémerge avec des méga-productions pas possibles, avec la musique mur à mur. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé un peu avec le cinéma? Puis, je sais pas, tu sais, ça peut être facile d'un peu de juste pas jamais s'y mouiller l'orteil, mais il y a certains films qui ont...
Ben, c'est-à-dire que, tu sais, le cinéma indien, c'est vaste aussi, là. C'est-à-dire Bollywood, c'est l'équivalent d'Hollywood pour le cinéma américain, tu sais, puis Satyajit Ray ne s'inscrivait pas du tout dans le cinéma populaire de Bollywood.
Absolument, donc, absolument. C'est peut-être juste parce que peut-être, mais il faisait quand même ça des succès. Fait que, tu sais, c'est peut-être comme, il y avait peut-être un temps où leur succès, finalement, était quand même arrimé avec une certaine forme, tu sais, sais, par exemple, au Japon, Ozu faisait quand même des entrées en salle, mm-hmm. ou je sais pas, là, tu sais, c'était pas, il était pas comme carrément dans une case hyper niche, là, film d'auteur, mm-hmm. je crois, là, tu sais, à ce point. Ouais. Alors que là, tu sais, on les connaît peu, peut-être, ces cinéastes-là. Mais Gangs of Wasseypur, je pense, ça, ben, je parle un peu à travers mon chapeau, mais j'imagine que ça a dû être un certain succès aussi populaire. Je peux pas croire, c'est assez généreux pour ça, en tout cas.
Oui, j'avais déjà fait des recherches, ça a été quand même un très bon succès en Inde, mais je pense pas que ça s'est vraiment exporté tant que ça. Notamment, c'est sûr que la durée, ça aide pas.
Ouais, ben c'est
puis,
sûr.
Puis comme tu le dis, tu sais, je veux dire, à part les voir sur Netflix ou, tu sais, nous, on a la chance à Montréal d'avoir le Cinéma Forum en temps normal.
Ouais, c'est ça.
Qui diffuse des films à chaque semaine, mais c'est parce qu'il y en a tellement que c'est dur de savoir où commencer. Et justement, je trouve qu'un film comme Gangs of Wasseypur, c'est une belle porte d'entrée parce que c'est très accessible comme film.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Puis, mais c'est parce que aussi, c'est drôle, parce que tu sais, je dis que des fois, on peut faire, ah, ça peut sonner un peu plus primitif. On dirait que c'est en ce moment-là de confinement, c'est ça qui m'attire. Tu sais, on dirait que quand j'écoute justement Dangle, puis qu'à un moment donné, il y a comme un montage de genre les jeunes filles qui se font entraîner par leur père sur de la musique bollywoodienne, un peu trop cheesy. On dirait que ça me fait tellement du bien, que ça réchauffe tellement mon cœur en ce moment. Fait que, faut pas non plus bouder ce côté-là. Je pense que tu sais, c'est un style, puis c'est des fois, ça met du soleil dans nos vies. Là. C'est bien correct de même.
Je peux te dire aussi, oui. Tout ce qui est Bollywood, là, essaie de regarder aussi les programmations de Fantasia. Fantasia est ce qu'il est cette année. Là, on attend encore des nouvelles, mais tu sais, quand il y a des festivals comme Fantasia, puis qu'il y a un Bollywood, c'est vraiment trippant l'ambiance dans la salle. La plupart que j'ai vu, c'était dans ce contexte-là. J'en ai vu au BIF aussi, puis c'est... Habituellement, c'est des films d'action plus accessibles, puis les gens réagissent vraiment fort à ces films-là, un peu comme des films d'arts martiaux où ils donnent un gentil là, où, avec qui tu peux comme cheerer tout le long du film, puis quand le méchant se fait battre, tu cries dans la salle. Ça, c'est un beau trip là, pour un Bollywood. Ouais. Quand il y a des chansons, le monde applaudit, se tape des mains. Ouais. C'est très entraînant. Ça doit être vraiment cool en Inde de regarder le cinéma, en fait.
Leur
façon de regarder des films doit être vraiment différente aussi, vu que les films, c'est toute autre chose. Mais ouais, regardez ça dans les festivals, c'est bien, bien intéressant du Bollywood.
Mais qu'est-ce qui est plus épique qu'un film bollywoodien? Les 48 heures de making of de Lord of the Rings, hein, Paul? Qu'est-ce que tu fais, toi, Paul, là?
Ouais, ben c'est ça. Ben entre autres, tu sais, je vous avais dit, je pense, dans un autre podcast, que j'avais commencé à réécouter les Hobbits et les Lord of the Rings et tout ça. Et là, on s'est mis... Ben moi, je les ai déjà vus, mais là, ma femme, non. On se met à écouter comme les making-of, tu sais, sur les fameux DVD édition longue de l'époque. Là.
Ouais.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers des extra-DVD, là, des fameux making-of, tu sais, parce que c'est un genre en soi qui a comme été créé avec, au début, la VHS et tout ça, il y avait des fois des petits reportages pour la télé, pour des émissions de cinéma. Mais c'est vraiment avec l'arrivée du DVD que ça a explosé, ces genres de making-of qui étaient organisés dès la pré-prod. Là. C'était comme, OK, on va engager quelqu'un, lui, c'est le responsable des suppléments. Et c'est un genre qui a piqué avec notamment les DVD de Peter Jackson puis du Seigneur des Anneaux. Et ça peut sembler une évidence, parce que j'imagine que la plupart des gens en ont vu là, déjà, mais vraiment, les coffrets d'édition longue, là, qui se retrouvent maintenant en Blu-ray ou de manière digitale, Diane Zano, c'est comme une école de cinéma. Là, tu vois tous les postes, ça dure des heures et des heures, t'as tellement d'entrevues, puis de suppléments, puis d'explications. Moi, je trouve ça formidable, puis c'est très nostalgique aussi de l'époque où j'ai découvert ça adolescent. C'est un peu une des raisons pour laquelle j'avais le goût de m'en aller faire des études en cinéma. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Puis, tu sais, ça on dirait que c'est comme de quoi qui est un peu en train de mourir, là, les extras. Maintenant, je trouve qu'on est revenu à des trucs très primitifs ou des espèces de petits mini-featurettes de 15 minutes où les gens se donnent une tape dans le dos sans grande profondeur ou analyse. Fait que c'est un peu dommage, mais en même temps, bon, c'est plus rentable. Fait que je comprends que c'est plus nécessairement une priorité, là, sauf pour les très grosses productions. Là.
Hey, moi, je suis en train de passer à travers ma collection de vieux DVD que j'ai acheté et que j'ai jamais écouté. Puis c'est justement, comme pour suivre ce que tu dis, là, je suis tellement surpris de voir le travail derrière les DVD, de vieux DVD des premières années quand ça sortait. J'écoutais True Romance il y a 2 jours, je disais tantôt, puis c'est l'édition en boîte en carton, comme il y a un Pulp Fiction comme ça, il y a un Jackie Brown, là, vous savez peut-être de quelles éditions que je parle, mais tu sais, les menus sont fous, puis il y a 2 disques avec full de stock, un gros livret dedans, c'est une édition spéciale pour un film spécial, puis on veut voir ces affaires-là. Surtout en temps de quarantaine, on a tellement le temps de se taper les bonus features puis de se taper des commentaires audio. Là. Mais ouais, excuse pas, toi, t'es dans dans celui du Seigneur des Anneaux, t'as quand même du stock à creuser. Là.
Oui, ben bon, je reviendrai pas non plus là-dessus parce que tout le monde connaît ça. Là, mais c'est quand même impressionnant, notamment tout ce qu'ils ont fait. Ce qui est très cool, c'est justement au niveau de l'échelle des personnages, parce que t'as les Hobbits qui ont une certaine taille, le nain Gimli a une autre taille, les humains ont une taille, puis Gandalf est un peu plus grand que tout le monde. Puis ça, c'est un mélange d'effets numériques, d'effets trompe-l'œil très primitifs à la Méliès, puis plein de trucs qu'ils ont inventés, justement, pour... avec notamment, tu sais, il y a souvent, il y avait 2 versions des sets différents, tu sais, de la comté, puis du bar, puis de telle place, à 2 échelles différentes. Comme ça, tu tournes d'abord avec les Hobbits, ensuite avec les humains, puis là, t'assembles le tout numériquement. Mais tu sais... C'est que c'est tellement simple, c'est ça qui est beau, tu sais. C'est que t'as pas besoin de, comme, avoir, tu sais, des... Oui, tu peux avoir un budget de 200 millions de dollars pour les effets numériques à n'en plus finir, mais tu sais, finalement, des fois, ce qui est le plus efficace, c'est juste de faire 2 tasses, il y en a un qui est 1,5 fois plus grosse, tu tournes 2 fois, puis that's it, là, tu sais. Fait qu'il y a de quoi de vraiment beau de voir tout ça, tu sais, puis des... Je veux dire, c'est tellement une production de fou malade, là, tu sais, ils ont engagé, genre, des espèces de... des forgerons, tu sais, 1 an juste à faire des codes de maille. Il y a une personne là, qui a fait des codes de maille pendant 15 mois pour le Seigneur des Anneaux, c'est ça sa vie, là, tu sais. Puis, t'as une entrevue avec ce gars-là, puis il dit, c'est le plus beau temps de ma vie, tu sais, c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma carrière, c'est le... Tu sais, je regrette rien, c'était vraiment cool, mais qu'est-ce qu'il a fait 12 heures par jour pendant 15 mois, c'est assembler des codes de maille, tu sais, puis même pas des vrais, tu sais, parce qu'il fallait que ce soit plus légère pour que les... ça soit sécuritaire, que les gens puissent jouer puis se déplacer, tout ça. Fait que non, c'est assez incroyable, toutes les anecdotes qu'il y a là-dedans. Mais non, sinon, j'écoute beaucoup de documentaires, en fait. Donc, un que je voulais souligner, qui est très, très cool, rapidement, là, ça s'appelle Recorder, The Marion Stokes Project, documentaire de Matt Wolff, qui est disponible en VOD depuis peu. Et c'est comme l'histoire extraordinaire d'une personne relativement ordinaire, tu sais, Marion Stokes, sans vouloir la dénigrer nullement. Là. Mais donc, c'est une Américaine née dans les années 50, afro-américaine, là, une personne noire, très idéaliste, tu sais, qui était un peu dans la mouvance des nouveaux mouvements étudiants, tu sais, des protestations du Vietnam, tout ça, les tensions raciales aux États-Unis à cette époque-là. Elle a grandi là-dedans. Et elle a toujours été un peu intéressée par les médias, par la télévision, tout ça. Et rapidement, elle a pu avoir sa propre émission communautaire sur une chaîne locale où elle invitait plein de gens de la société à parler de sujets, d'être très ouvert aux différentes opinions politiques et tout ça. Et il y a quelque chose qui a changé sa vie, en fait. C'est en 79, lorsqu'il y a... entre-temps, elle a amassé quand même beaucoup d'argent. Elle était très à l'aise financièrement. Et en 79, il y a la crise d'otages en Iran. Qui devient un truc qui est télévisé jour après jour, parce que ça dure des mois et des mois, cette crise d'otages-là, d'étudiants américains en Iran. Et ça va comme la fasciner, et c'est comme aussi une des premières guerres, ou du moins une des premières crises télévisuelles, tu sais, que vraiment l'humain et la civilisation aura compris à travers le médium de la télé. Et c'est en comparant notamment les reportages de différentes chaînes qu'elle a pu comprendre qu'en contrôlant l'image, on contrôlait une partie de l'histoire. Et c'est pas un hasard non plus que l'année suivante, en 1980, la chaîne CNN est née, donc chaîne d'information continue 24 heures. Et elle s'est mise à ce moment-là, lors de la crise de 79, elle avait acquis donc un enregistreur. Elle s'est mise à enregistrer ce qui se passait à la télévision et rapidement avoir plusieurs téléviseurs et plusieurs enregistreurs et des tonnes de VHS pour enregistrer tout ce qui se passait à la télévision en tout temps. Notamment tout ce qu'il y avait sur CNN, sur Fox, etc. Et en 35 ans, elle a accumulé 70 000 VHS de contenu 24 heures sur 24.
My dream!
Ouais, c'est ça, what the hell? Okay.
Et pour elle, c'est vraiment, c'est pas comme nécessairement une obsession maladive ou quelque chose comme ça, c'est vraiment comme un projet pour elle d'archiver les images, parce que c'était une forme de pouvoir, parce que c'était important et qu'elle voulait. Elle avait aussi suivi des études de bibliothécaire. Et pour elle, c'est vraiment comme c'est un nouveau médium. Et tout comme le livre, la musique ou peu importe quoi, il fallait archiver et conserver cette partie-là de notre histoire qui était en train de se créer. Mm-hmm. Et c'est un projet qu'elle menait un peu de manière secrète parce qu'elle a eu aussi beaucoup d'ennuis avec la justice et le gouvernement, notamment parce qu'à un moment donné, elle a sympathisé un peu avec les idées communistes. Parce qu'elle était noire, parce que des fois, elle levait la voix quand il fallait pas, ou elle disait des opinions, des fois, mettons, elle s'opposait à la guerre au Vietnam et tout ça. Et donc, elle a fait ça un peu dans le secret, et c'est à sa mort, dans le fond, que un de ses fils, avec qui elle avait pas nécessairement la meilleure des relations, est devenu, dans le fond, l'exécuteur de son testament, puis là, ils se sont rendus compte de l'énormité des archives qu'elle avait accumulées. Puis pas seulement VHS, c'était aussi vraiment une... collectionneuse ou certains d'un point de vue plus péjoratif vont dire une hoarder, là, quelqu'un qui accumule trop de trucs, mais notamment aussi elle était fascinée par Apple. Elle se rappelle très bien, tu sais, il y a des images archives, là, la première fois qu'elle a vu la pub de 1984 là, durant le Super Bowl, la fameuse pub réalisée par Ridley Scott qui annonce le Macintosh là. Puis ça, justement, c'était un des marquants forts selon elle qu'elle a vu en live, tu sais, puis elle disait genre c'est ça le poids de la télévision, puis la puissance de la télévision. Et puis, elle a vraiment cru en Apple, puis elle a investi, puis elle a demandé à sa famille vraiment d'investir dans Apple au tout début, là, quand ça valait rien. C'est entre autres là-dessus que sa famille a bâti sa fortune. Et elle a accumulé, genre, tu sais, à chaque fois qu'elle avait des neveux, des enfants, elle leur donnait des Mac, puis des ordinateurs, puis c'était comment utilise ça, c'est le futur, tout ça. Et là, finalement, tu sais, le documentaire justement, interroge beaucoup le pouvoir des images, puis il y a comme... C'est un documentaire, somme toute, classique, tu sais, chronologique, là, qui montre un peu d'où elle vient, pourquoi elle fait ça. Même si la vraie question, tu sais, pourquoi elle fait ça, on ne pourra peut-être jamais vraiment y répondre. Mais le documentaire est aussi intéressant quand il y a certains espèces de petits passages un peu poétiques de montage. Tu sais, vraiment, là, elle avait aucune... Parce que ça, c'est qu'elle enregistrait tout ce qui se passait à la télé, là. Autant les publicités, les sitcoms... des reportages, les espèces d'émissions de téléachat, des concerts musicaux, des spectacles d'humour, tout ce qui se passait.
Mais faut qu'elle choisisse le poste, par exemple. Faut qu'elle choisisse le poste. C'est ça, l'histoire.
Ben non, parce qu'elle avait plusieurs téléviseurs, puis elle enregistrait tout en même temps, tu sais, puis il n'y avait pas...
Ouais, c'est fou, ça, pareil.
Ouais, ouais. Donc, puis justement, il y a des exemples dans le film où on voit, par exemple, le 11 septembre 2001, ben tu sais, qui est comme... une des images, une des journées télévisuelles, puis de tout court, les plus importantes de notre époque, t'sais. Puis justement, on peut voir un montage des différents canaux, comment ils ont réagi, à quelle fréquence, c'était quoi le ton un peu, puis qu'est-ce qu'ils jouaient avant, t'sais, parce qu'il y avait à un moment donné, justement, l'équivalent d'une espèce de Much Music, ou je sais pas quoi, MTV, là, puis t'sais, c'est une espèce de gros clip de rap un peu dégueu avec une fille sexy, qui jouait avant que ça break à des images, des breaking news des deux tours, tu sais. Puis, tu sais, imagine être cet artiste-là, tu sais, il y a quand même un malaise d'être comme la dernière personne qui a joué avant ces images-là en même temps. Tu peux pas le prévoir, là. Mais de voir, c'est ça, la totalité. Parce que, tu sais, le cerveau humain puis les histoires qu'on raconte, on fait toujours une espèce de sommaire, puis on va juste aller vers les événements exceptionnels, vers les œuvres exceptionnelles. Puis, tu sais, même nous, ce qu'on contribue en tant que podcast, c'est ce qu'on va parler des films.
Ben oui, on choisit de quoi on parle. Il y a plein de films qui rentrent puis qui sortent, puis qu'on n'a même pas, tu sais, qu'on n'a rien de pertinent à dire dessus, puis que that's it, puis qu'ils vont s'effacer dans notre cerveau à un moment donné, puis c'est bien correct, là.
Mais tu sais, un vrai travail
archivistique,
c'est vraiment de pas faire de choix éditorial. T'sais. Puis c'est ça qui est un peu fascinant, parce qu'il y a plein de choses, dans le fond, qu'elle, elle a accumulé au fil des années, qu'il y a bien des chances que ce soit la seule au monde qui a ça, parce qu'elle a des émissions de télé locale, elle a des pubs, que les tapes existent sûrement plus, tu sais, des sitcoms. Tu sais, puis si vous avez déjà un peu fait des recherches là-dedans ou fouillé la question, tu sais, même des sociétés d'État ou des grosses compagnies, il y a plein d'affaires que c'est perdu à jamais.
Ben oui, ben oui.
Parce qu'à l'époque, on pensait pas que c'était nécessaire de préserver ça. Et fait que finalement, c'est comme un petit documentaire vraiment le fun qui soulève beaucoup de questions, puis Puis moi, c'est comme quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tu sais, je pense, le rapport aux images. Puis tu sais, parce qu'on est, veux pas, nous, on est de notre génération, tu sais, on a grandi, la télé était déjà omniprésente. C'est un peu le. Puis même à la limite, on a assisté à son déclin, parce que maintenant, tu sais, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que même s'il y a encore des événements télévisuels énormément rassembleurs, tu sais, puis là, ben, évidemment, les points de presse de François Legault, c'est l'exemple ultime là, en ce moment dans notre société, tu sais. Mais reste que la télévision a pas mal moins de place dans ma vie qu'elle n'avait quand j'étais enfant. Mm-hmm. Donc, c'est le fun aussi de voir un peu... parce que justement, le film fait aussi une histoire de la télé à travers son projet archivistique. Mm-hmm. Donc, ouais, un très cool documentaire qui pose bien des questions, qui est le fun.
Mais...
parlant d'œuvres télévisuelles qui posent beaucoup de questions, qui fait réfléchir...
Si tu t'en vas là où je pense que tu t'en vas, ta transition fait aucun sens.
Non, mais là, parce que moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais Pascal, tu as vu cette... Et Rémi, vous avez vu cette œuvre culte.
Ben moi, c'est de la faute à Pascal, là. Juste le dire, là, que j'ai écouté, okay, regardé ça.
Un peu. Je vais mettre en contexte comment ça s'est passé. Ben là, introduis-le, là. Dis c'est quoi, ouais, là, qu'on parle.
Donc, ce troisième long-métrage du visionnaire Richard
deuxième.
Kelly.
C'est pas troisième
son après... C'est son deuxième?
Ah oui, deuxième. Ouais. Il y en avait juste fait trois.
Deuxième long.
Bon, donc deuxième long métrage, Southland Tales de Richard Kelly.
Ouais.
Après le succès culte de Donnie Darko.
Ah, et ça, c'est un film que j'ai jamais pu digérer. By the way, là, je peux-tu dire ça en disclaimer, là? Genre,
Donnie Darko?
Là, même là, quand j'avais pas vraiment d'esprit critique, là, puis que j'écoutais tous les films là, qui étaient sur le top 250 d'IMDB, là, juste pour les écouter, je suis comme fait, ah, oh, ouais, voyons donc. Puis, tu sais, parce que j'ai l'impression que ça a attiré une... tu sais, là où un film comme, mettons, tu sais, Shane Carruth avec Primer, mettons, tu sais, ça attire des fans qui sont un peu en dehors d'un certain cercle cinéphile de par le côté vraiment science, tu sais. Puis, j'ai l'impression que Donnie Darko, ça a comme attiré pas nécessairement les geeks de science, les geeks de théorie. Puis c'est comme pas la même chose des théories puis de la science, là. Mm-hmm. Puis, je sais pas, je trouvais ça un peu creux, je trouvais comme, c'était comme faussement intello, tu sais. Puis, mais il y a Jake Gyllenhaal, puis c'est bien correct, puis il y a un lapin, tu sais, c'était pas mauvais, là, mais genre, j'en suis vraiment revenu vite, là, de Donnie Darko, là, me dire, là.
Hey, je peux-tu te dire aussi, tant qu'à faire, parenthèse, tu sais, en plus, ça vient du gars qui a dit que In the Tall Grass, c'est bon, là, fait que prenez-le pour ce que tu sais, là.
prenez tout ce que je dis à la légère.
Ouais, c'est ça, mais moi, je pense aussi que ça a peut-être mal vieilli, Donnie Darko, puis... Je l'ai vu il y a quelques années, fait que je l'ai pas revu genre très récemment, mais mm-hmm. J'ai l'impression que c'est beaucoup de poudre aux yeux puis que les problèmes du film sont un peu comme mis de l'avant comme si c'était des choix esthétiques qui rend ça encore plus comme mythique et weird. Mais je pense que surtout après avoir vu le film dont on va parler,
ben c'est ça l'affaire.
Surtout
ça, l'affaire.
Après avoir vu
non,
ça, j'ai l'impression
moi,
je vais vous dire
je vais vous dire ce qui se passe. Okay? Donnie Darko à l'époque là, ça a fait un flop au cinéma. C'est vraiment devenu culte suite à la sortie en vidéo.
Oui, 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 certain.
Ouais.
Comme Bulldog Saints, puis.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais là, il y avait un cycle un peu de genre, hey, tu checkeras ça, c'est cool. Ouais, j'en ai pas entendu parler. C'est un film underrated. Là, mm-hmm. Après ça, la bulle elle a explosé, mais parce que là, tout le monde était comme, ah oui, Donnie Darko, tout ça, bah, finalement, c'est pas si bon que ça, tu sais. Mais tu sais, personne n'a dit que c'était comme le grand chef-d'œuvre de notre époque, là, Donnie Darko.
Oh, il y en a qui le défendent, Paul. Il y en a que c'est leur
non,
bible,
mais...
là. Puis, tu sais, mais c'est aussi un film que. C'est parce que Richard Kelly va ailleurs parce qu'il faut comme que tu consommes tout ce qu'il y a autour du film aussi pour creuser assez loin dans le film. Tu sais, Donnie Darko, il dit qu'il y a des clés qui étaient sur le site internet qui était à l'époque en ligne. Il y avait des pages, des livres pour comprendre les théories de voyage dans le temps. Il donne des clés dans les commentaires audio, dans la Director's Cut. Fait que ouais. C'est comme... Il manque comme
mais pour
des
moi, je le considère comme un bon début, comme, mettons, un Following ou un Pi de Aronofsky. Tu sais, c'est comme c'est un peu la même génération de ces nouveaux cinéastes qui arrivent, tu sais, qui sont,
fin
sont
90.
Intéressants, qui ont, tu sais, qui ont une bonne maîtrise du médium. Mais ensuite, Donnie Darko, c'est pas du top 250 de tous les temps, là, on s'entend.
Ouais, j'apprécie Donnie Darko, mais j'ai juste l'impression qu'il est peut-être un peu overrated avec le temps. Là, que... Mais bref, on en vient-tu à notre
ouais,
sujet,
c'est
les
ça,
gars?
Là... Puis pour moi, c'est tout ce qui peut dérailler avec un premier film qui est un peu overhyped, puis que là, mettons, ok, je connais pas toute l'histoire, les dessous de la création de Southland Tales, ok, mais je vais te dire comment je l'ai perçu en tant que cinéphile. Tu sais, là, Donnie Darko, mettons, tu sais, Richard Kelly, là, ça serait, tu sais, le stoner de famille privilégiée, là, qui a jamais eu lieu à étudier, là, pis qui, mais tu sais, qui avait quand même des bonnes notes dans ses examens, là, tu sais. Tu sais, le frat boy, là, mais tu sais, comme un peu clever, là, qui s'en sort, là, tu sais. Donnie Darko, c'est comme, ok, là, c'est mon examen de graduation, là, c'est mon barreau, là. C'est bon, là, j'ai eu le barreau, là, tu sais.
Ça serait genre le vilain dans un American Pie, là.
T'sais. Genre, là, tu sais. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que. Pis là, mais c'est parce qu'il fait des films où il met tous ses fantasmes dedans, tu sais. Pis là, il t'arrive à Southland Tales, là, pis c'est un esti de film, là, où vraiment, là, on dirait que t'es dans la tête, là, c'est ça, de cette espèce de frat boy, là, qui a jamais décroché de sa passe de Limp Bizkit, là. Pis que là, il fait, là, genre, un film avec Mandy Moore, avec Sarah Michelle Gellar, avec Sean William Scott, là, tu sais, il sort
Justin
tous les autres frat boys et frat girls,
Justin
là,
Timberlake avec une petite barbiche.
Justin Timberlake qui fait la narration.
Fait un vidéoclip au milieu du film, là, à un moment donné, là.
Ouais, un vidéoclip au milieu du film. Écoute, tout se passe. C'est comme, là, genre, c'est tu sais, l'expression être bandé sous ce qui choque, là, je pense que j'ai rarement vu un film d'un cinéaste où je pense que littéralement, il devait être bandé sur ce qui shootait, là. Puis, c'est vraiment quoi, pour moi, là, on devrait enseigner ça dans les écoles de cinéma, là, quoi ne pas faire. Comme, t'as eu un premier long, c'est good, tu sais, t'as eu du hype, good, cool. Voici, comme, ça, c'est un cautionary tale. De quoi ne pas faire pour un deuxième long.
Mais moi, tu sais quoi? Moi, je pense que beaucoup du blâme du film, OK, est pas nécessairement. Ben oui, indirectement, c'est la faute à lui, mais je pense que c'est le studio qui a trop donné carte blanche.
Ben,
je pense que c'est le studio
ben,
c'est
qui a.
C'est un problème comme Lucas avec la trilogie de prequel de Star Wars. Là. C'est
ouais,
genre.
C'est différent parce que Lucas l'a financé lui-même, mais tu sais,
un espèce
de jeune prodige qui arrive, là, tu sais. Puis,
c'est
qu'il y a
personne qui dit
blanche,
non autour, là. C'est ça l'affaire, là. C'est.
Ouais,
tu sais, il y a comme.
Ça prend un producteur, là, tu sais, qui va le challenger, là.
Mais à taper, on s'emballe, mesdames et messieurs. Rémi, fais-nous donc le synopsis.
Oh non, ben non. Hey, sérieux, moi, avant qu'on entre en autre, je pense que ça fait je pense qu'une semaine, je l'ai vu environ. Puis déjà, là, je m'en souviens à peine. Là, je peux te dire des moments qui se sont passés dans le film.
Ben, c'est ça.
Mais sérieux, je me souviens. J'avais de la misère à comprendre en le regardant. J'étais allé lire, genre, j'étais là, je le regardais, là. J'étais pas en train de faire autre chose. Mais il fallait que j'aille sur Wikipédia pour suivre ce qui se passait. Parce que j'étais tellement mêlé, là, dans qui est quoi, qu'est-ce qu'ils font, où c'est qu'ils s'en vont, pourquoi
ben,
ça se passe. Je comprends rien. Puis ça, c'est dû à une affaire aussi.
Ouais.
C'est que le film commence au chapitre 4. Puis pour comprendre qu'est-ce qui se passe avant, faut que tu ailles lire des bandes dessinées qui sont disponibles sur Amazon, que tu vas l'acheter encore. Puis t'as des chapitres 1, 2 et 3, puis je pense que c'est ça, hein, c'est 1, 2 et 3 qui sont en livre. Puis ça explique tout le backstory. Fait que l'ouverture du film, c'est un genre de 10 minutes de After Effects avec des maps du monde, des photos qui apparaissent, des vidéos. Ça a l'air d'être genre un desktop de quelqu'un qui entretient pas son desktop d'ordi, là. Puis c'est juste plein de fenêtres ouvertes. Puis ça nous explique le backstory des trois livres que personne a lu, là.
Mais ça aussi, c'est que c'est comme à l'époque, une très brève époque, où il y avait comme, à l'époque, le mot à la mode, c'était synergie à Hollywood, là. Puis là, soudainement, tout le monde pensait qu'il allait avoir la convergence des médiums, puis c'était bien hype avec la matrice quand ils ont fait, surtout dans le temps du 2 puis 3, il y avait comme tout un plan médiatique avec sites web, jeux vidéo, puis notamment il y a des personnages dans les films que si t'as pas vu les jeux vidéo, tu comprends plus ou moins. Même chose avec Star Wars, entre le 2 puis le 3, il faut que t'aies suivi la série animée si tu veux tout comprendre, puis tout ça. Fait que c'est comme un peu ça. Il y avait vraiment tout un plan médiatique là, autour de la sortie de Southland Tales.
Et, il appelle ça la convergence aujourd'hui avec le web en passant. Là. Dans les boîtes de prod, là, la convergence là, où tu es censé faire des trucs multiplateformes, là, ça s'est rendu le nouveau mot qui a pris la place. Là.
Ouais.
Mais puis ça vieillit mal parce que là, justement, on n'est plus dans ce moment-là.
Je pense qu'en 2006, on l'était déjà plus, Paul. C'est ça le problème.
Je pense que
vraiment, là, entre 2001 puis 2006, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis tu sais, en 2001, on a quand même une société qui a permis à Fred Durst d'être populaire. Tu sais, je pense que Southland Tales avait sa place. Je pense que Southland Tales avait sa place, tu sais, dans
ce monde-là.
C'est
quoi tu critiques finalement, là? C'est les biscuits au South Landing?
Non, mais tu sais, il y a plusieurs affaires qui se passent en 2001 qui restent en 2001.
Ouais.
Puis South Landing, c'est avec le soundtrack de Moby, là. Le soundtrack de Moby, c'est assez 2001 à ton goût, ça?
Mais des fois, la ligne est mince, hein, entre un produit de son époque qui vieillit mal et un produit de son époque qui devient une espèce d'étude anthropologique, là, tu sais.
Mais peut-être que le début 2000 va devenir les nouveaux années 80, et peut-être qu'on va tout devenir nostalgique de genre de toutes ces niaiseries-là, puis que Southland Tales
je vais quand même prendre le challenge. C'est une... The Rock, Dwayne Johnson, ça doit être une des premières fois que c'est fait appeler Dwayne Johnson aussi, là. Il joue une star de cinéma qui a de l'amnésie, puis qui essaie, puis qui fait des choses avec ses doigts des fois, là. Tu sais, il y a comme un tic avec ses doigts, là.
Ouais, je sais pas
de quoi je parle. Il a l'air suspicieux avec ses petits doigts, là. Fait qu'il fait ça, c'est comme son acting. Puis il chill avec une porn star qui est genre Sarah Michelle Gellar. Puis le film, il est narré par un Marine qui est Justin Timberlake.
Avec un goatee, avec une petite barbe de menton.
Avec un goatee. Puis il y a Sean William 2001. Scott qui fait un genre de Marine qui est dans le Youpoutou. Youpoutou. Fait que Youpoutou. Fait que c'est une joke de crotte, là, on s'entend, là. Le nom des uniformes. Fait que ça, c'est de le casting, puis ils font des choses pendant 2h30, là, c'est pas mal.
Le casting, faut qu'on en parle plus que ça, là. Je veux dire, c'est ça, il y a Sean William Scott là-dedans, il y a, tu sais, Christophe Lambert qui fait un rôle, Kevin Smith fait un genre de caméo étrange,
Kevin Smith, il est là, genre, 5 minutes, puis fait un vieux monsieur, genre, c'est quoi qui se passe?
Mais, quoi dire? Ben, déjà, là... Toi, Paul, t'as dit, je sais que tu défends un peu le film parce que, puis je suis avec toi sur le fond, je préfère un film bordélique avec des flashs, de fulgurance, qu'un film comme plat, tu sais, un film tout est moyen ou tout est correct, puis fair enough, tu sais.
Ouais, puis normalement, c'est d'accord. Ça, c'est un peu comme ça que, tu sais, souvent, j'ai des choix controversés, des films que je défends, puis on parle beaucoup, mettons, d'Aronofsky, c'est ce genre de cinéaste, là. Tu sais, des gens qui peuvent vraiment. Oui, c'est peut-être que des fois, ça peut être ridicule ou c'est même du mauvais goût, mais il y a de quoi de le fun, des fois, d'assumer ça. Puis, tu sais, il y a des vieux films que je trouve bons malgré tout, tu sais. Puis, il n'y a pas longtemps, tu sais, j'irais jamais dire que c'est un bon film, Demolition Man, tu sais, mais ça représente quelque chose.
Moi, oui.
Mais ça représente quelque chose de l'année 90, tu sais, qui est comme vraiment un produit de son époque, mais quasiment le meilleur exemplaire, tu sais. Mm-hmm. Puis Southland Tales, c'est quasiment un peu ça pour les années 2000, début des années 2000, tu sais. C'est quasiment genre ça, puis mettons Too Fast, Too Furious, on dirait que c'est comme... Ça représente bien le début des années 2000, là, tu trouves pas?
Ouais.
Mais il faut que tu sois conscient aussi de quand tu dis c'est pas un bon film ou c'est un bon film, c'était quoi l'intention initiale du film? Mm-hmm. Parce que un film comme Demolition Man, c'est un film d'action avec Stallone... qui est quand même, le but, c'est juste d'être un gros divertissement bonbon, plein de pop références. Ça, Southland Tales, il y a quand même une intention en arrière de dire plein d'affaires, là. Il y a vraiment plein de discours qu'il veut aborder. Il y a comme une société totalitaire, tout le monde est observé à la 1984. Il veut parler de ça. Ça a été écrit avant le 11 septembre, mais... le film a été fait beaucoup d'années après le 11 septembre, donc il a réécrit le scénario autour de ça aussi pour parler de la société américaine, de où elle s'en allait. Fait que le problème de ce film-là, c'est pas nécessairement que c'est un mess, mais c'est un mess qui essaie de dire un message, puis d'avoir un discours intelligent autour, puis de rendre ça de façon le fun, mais c'est genre pas le fun, là.
C'est ça l'affaire, c'est que c'est interminable, ça dure 2h25. Apparemment qu'à Cannes, la version de Cannes durait 2h40. Ça, c'est une version qu'on peut plus trouver aujourd'hui, je pense, là. Ou il y a peut-être un director Scott caché quelque part, je sais pas, mais
Release de Kelly Cut.
non, justement, là, c'est vraiment amplement suffisant, même qu'il y a des sérieux problèmes de rythme, mais au-delà des problèmes de rythme, c'est pourquoi que je vais en parler autant de ce film-là, parce que ça m'a
Ça m'a fâché, là.
Ça m'a fâché, esti. J'étais comme, je vous dis, parce que c'est ça que je vous dis.
C'est comme, hey les gars, je suis en confinement, là, j'ai pas juste ça à faire, passer 2h25 sur un film de même. Bon, on va se cranker à Bollywood.
J'en ai parlé, tu sais, on a, tu sais, sur notre Facebook Messenger, tu sais, on s'écrit souvent, là, tu sais, les films qu'on a écoutés, puis juste des petites impressions à chaud, puis hey, check ça, ou bah, bah. Puis genre, j'écoute South Lanterns, puis là, genre, je le trash sur notre Facebook, sur notre Messenger, là. Tu sais, genre, je dis, là, le mot qui me vient en tête, c'est spectaculaire. Tu sais, genre, dans ça, c'est spectaculairement mauvais, spectaculairement raté. Il y a quelque chose de l'ordre du spectaculaire dans ce misfire-là, là, tu sais. Puis là, genre, je le trash comme le plus que je peux. Puis Rémi, il me dit, hey, tu me donnes le goût de le voir. C'est comme, Chris, je peux pas plus te déconseiller un film. Puis toi, tu me réponds, ça me donne le goût de le voir.
Mais non, mais c'est j'adore les. Ouais, ouais, mais c'est la curiosité morbide, là. Tu sais que j'aime les mauvais films, puis je suis comme toujours curieux de voir un train wreck, puis des fois, on a des opinions qui sont bien divergentes aussi, fait que je me suis dit, peut-être que je vais avoir une autre opinion, mais sérieux, là, j'ai écouté d'une traite, mais ma blonde s'est endormie à 45 minutes dans le film, puis ça a fini, puis elle était comme, ah, oh, tu l'as écouté jusqu'au bout, finalement, j'étais comme, ouais, on va en parler au podcast, ça a de l'air, mais...
Ça, c'est fucking drôle, tu dis, ma blonde s'est endormie 45 minutes dans le film, moi, ma blonde, elle a écouté 45 minutes, puis après, elle a dit, ouais, je vais aller faire autre chose, puis j'ai fini tout ça.
Mais tu sais, pour être fair, je l'ai pas réécouté depuis, comme, au moins... 6, 7, 8 ans, là, je ne sais plus trop. Fait que c'est quand même assez flou ce que j'en garde, mais mon souvenir, c'est d'une bonne impression. Et ce que je me souviens, là, c'est que ça avait l'air du genre de film de quelqu'un que ses films préférés, c'est genre La Matrice puis 12 Monkeys de Gilliam. Là,
ouais, genre.
Puis comme ah ouais, c'est cool, là, c'est fucké, puis on va mettre plein de trucs, puis genre. Puis tu sais, qui maîtrise peut-être pas tout exactement ce qu'il fait, puis qui est pas trop ça, tu sais, qui tripe sur Lynch, mais qui. Ouais. C'est plus un émule qu'un grand artiste.
Il aime créer des univers aussi. Il faut lui donner, parce que il y a la volonté, disons, à tout le moins, de créer quelque chose de plus large que juste le filon narratif du film. T'sais, tu le sens qu'il y a eu un certain souci de créer un univers cohérent. Mais en fait, c'est que ça devient, moi je trouve, en tout cas, c'est que c'est une lame à double tranchant. En fait, ça devient son talon d'Achille. Parce que là, tout à coup, le concept commence à prédominer sur juste comme l'intelligibilité ou le fait ou comme comment que le spectateur s'accroche à certains éléments narratifs comme simple spectateur qui peut peut-être s'en crisser légitimement là, t'sais, de ton monde étendu, t'sais. Puis c'est comme si ces excès là que lui il devait triper là, mais ils sont comme mal communiqués, puis c'est ça l'affaire, c'est ultimement c'est ça le problème. Je salue l'ambition, mais il suffit pas de triper sur l'univers de Philip K. Dick puis de faire des références au livre des Révélations pour que ton film soit comme deep puis qu'on a envie d'engager intellectuellement avec là. Parce puis en plus il y a un problème de fond parce qu'il y a plein d'humour puéril partout dans le film, tu sais, il y a des jokes de porn star, des jokes de cul, des jokes de, mais tu sais, j'ai rien contre ça, c'est super, tu sais, ça se peut, sauf que là ça t'empêche de prendre au sérieux certains éléments qu'on devrait peut-être prendre au sérieux ou pas. En tout cas, je sais pas c'est quoi le ton de ce film là.
Puis je pense que c'est pas un assez grand cinéaste pour faire oublier ses faiblesses, contrairement à certains, tu sais, mettons un Gaspard Noé là, tu sais, ses films souvent sont très très superficiels puis juvéniles, mais il y a quand même une telle prouesse technique ça fait un peu oublier les restes. Je pense pas que Kelly est à ce niveau-là.
Non, puis les effets spéciaux, en plus, si on veut attaquer le côté plus fantastique, les effets spéciaux, ils tiennent plus la route aujourd'hui. Il y a du green screen, là, cheap, du CGI qui a vraiment mal vieilli. On peut le comparer peut-être à une ambition d'un Jupiter Ascending des Wachowski, là, qui est une autre marde cinématographique. Mais Jupiter Ascending, c'est plus écoutable parce que c'est un so bad that it's good, puis c'est facile à suivre narrativement. C'est une histoire de royauté bien traditionnelle qui est quand même très écoutable dans son, même si c'est un très mauvais film. Ça, c'est juste tellement un mess narratif que c'est zéro compréhensible là, où c'est qu'on est avec les personnages, puis.
Mais tu sais, il y a pas une grande carrière, Richard Kelly, puis tu sais, je suis pas en train de pleurer la mort d'un auteur, là. Mais je pense que ça aurait juste vraiment dû lui prendre probablement un producteur près de lui qui est capable de comme le gérer, puis de le challenger, puis parce que pour moi, c'est un espèce de cinéaste un peu à la M. Night Shyamalan, tu sais, qui quand il est trop laissé à lui-même, il peut devenir vraiment là, pédant, puis se perdre dans son propre hype, là, on va dire. Là. Parce que même si j'aime beaucoup là, Chagrin Malade, mais je veux dire, sa filmographie, c'est vraiment Dante. Puis on dirait que c'est en Dante quand il y a trop de liberté, justement. C'est peut-être juste une impression, là, c'est peut-être pas le cas réellement là, dans les faits. Mais d'ailleurs, là, Glass, là, je l'ai écouté récemment. Là, puis c'est vraiment pas un sommet de sa carrière, Chagrin Malade. Mais oui, ça y aurait pris sûrement un producteur. Là.
Pourtant, il y avait un petit retour avec ces deux derniers en plus. C'est tellement dommage. Mais comme tu dis, c'est un peu triste pour Richard Kelly parce qu'il a fait 3 films dans sa carrière. Puis là, il a disparu de la map. Ça fait depuis 2009 qu'il n'a pas fait de film. Son dernier, c'est The Box, qui est... c'est un pas pire film, là, mais c'est pas un grand film. C'est un peu comme... C'est un peu le genre de production que Blumhouse va sortir ou c'est un film d'horreur à concept avec une bonne idée. C'est quand même bien exécuté. Fait que tu sais, c'était pas un, je pense, un flop monumental au niveau de ce que c'est le film, mais c'était un flop, je pense, au box-office. Fait que c'est un peu ça qui a peut-être tué sa carrière, mais...
Mais ça, de box, tu vois, ça sentait vraiment que c'était plus une commande puis que c'était comme, OK, là, après Southland Tales, tu peux pas faire ce que tu veux, là, tu sais. Fait que comme refais tes classes un peu, là.
Ouais, tu peux aussi bien prendre une commande. Il y avait le réalisateur là, qui avait fait comment il s'appelle? John Cameron Mitchell là, qui a fait Hedwig and the Angry Inch, puis Short Bus. Il a fait le film Rabbit Hole avec Nicole Kidman. C'est un drame, c'est super bien fait. Puis tu sens que c'est en dehors de ce qu'il fait habituellement, mais tu sais, c'est un bon film, mais tu sais, je sais pas, Richard Kelly a comme pas eu de rien de plus après Donnie Darko. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'effaces un peu. Il a écrit Domino aussi, que j'ai pas vu, là, fait que je peux pas commenter là-dessus, mais il a écrit ce film-là. C'est pas mal ça, là.
Non, mais écoute, Richard Kelly a ripé sa carrière, mais, mais apparemment, il y a des rumeurs qu'il serait en train de travailler sur Southland Tales 2.
C'est fou, donc, c'est pas vrai.
Ça fait... Ben, apparemment, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, d'ailleurs, puis il essaie de produire ça, là. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un critique qui est comme un historien du cinéma, qui est, je pense qu'il est rendu au post-doctorat, que je suis sur Twitter, qui est très très érudit, là, Peter Labouza. Très 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 bon historien. Là. Et lui avait écrit un livre carrément sur Southland Tales. Puis que pour lui, c'est un grand film. Là. Bon, ensuite, j'ai pas lu le livre, fait que je pourrais pas vous détailler en gros son argumentaire. Là. Mais oui, il y a des défenseurs, ce film-là.
Fair enough.
Hey, je peux te dire aussi juste une dernière affaire là. J'aimerais vraiment ça lire le dossier de pitch de Richard Kelly. Genre, tu sais, un pitch à des producteurs, c'est quand même stressant. Puis tu veux faire de quoi de bien. Comment t'arrives avec Southland Tales à des producteurs, puis t'es convaincu de faire ça là, puis de te donner tout l'argent du monde parce que il y a tellement de scènes, tellement d'effets spéciaux, de gros noms, de comédiens, c'est immense comme production. Puis comment tu pars là-dedans? Pis t'as aucun contrôle autour, c'est vraiment, vraiment fascinant.
Pis ça sonne aussi comme un film où il a shooté beaucoup plus que ce qui se retrouve dans le film final, en plus c'est de ça, là, tu sais.
Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de pitch. Tu sais, j'ai l'impression que Donnie Darko, c'est devenu un gros hit sur DVD, ça se vendait tout le temps, c'était tout le temps loué, gros bouche-à-oreille. Puis quelqu'un, un exécutif, s'est rendu compte de ça, qui est allé voir Richard Kelly, fait « Hey, c'est quoi ton prochain projet? » Puis lui, comme « The Rock! » quoi d'autre? Il y a Buffy, Sarah, Mitchell Gerard, OK, c'est
Il y a des autos qu'il faut ramener.
Hey, oui, c'est vrai, il y a des autos en CGI qu'il faut aussi, il faut le dire.
Mais c'est ça, on dirait l'ancêtre. Tu sais, les fameux algorithmes là, de Netflix qu'on a on s'est donc moqué au début là, quand ils voulaient faire House of Cards parce qu'ils se rendaient compte que les gens aimaient les trucs politiques, mais ils aimaient aussi Kevin Spacey et tout ça, puis ils montaient des projets. Ben, tu sais, on dirait que c'est comme un peu l'ancêtre de cet algorithme-là, une version défaillante, là, tu sais, qui est comme, OK, les gens aiment la lutte, les gens aiment Buffy contre les vampires, on va tout mettre ça ensemble, puis ça va donner ça, tu sais.
Hey, Justin Timberlake était à mode cette année, hein, on va lui donner un vidéoclip à travers le film, comme un Bollywood.
Ouais.
Mais quand même, là, Richard Kelly a lancé la carrière d'acteur de Justin Timberlake avant David Fincher, a été un des premiers à faire confiance à The Rock, qui est rendu comme une de nos plus grandes stars d'action.
Il a révélé donc, Jake Gyllenhaal quand même. Donnie Darko, c'est pas mal ça, le rôle qu'il l'a fait révéler. Non, écoute, il a contribué. Qu'est-ce que tu veux, notre petit Kelly? On a assez passé de sa vie sur Southland Tales. On en parle depuis genre une demi-heure. Puis on arrête pas de dire que c'est de la crise de la mort. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont faire « Hey, j'ai envie de le voir ». Tu sais, c'est comme... C'est reverse psychology total.
Ouais, c'est clair. Bon, ben voilà. Alors, c'était notre point de vue cette semaine. On va se voir, on va se reparler éventuellement. On va écouter la bande-annonce de Wendy, de Ben Zetlin, qui est disponible en location en ce moment, en VOD. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andrieu. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Leblanc. Remember the voice in your head? The one that said, sneak away. Here is the place it came from. We're on the mother! You will never grow up! Never! So began the legend of Peter, the boy who would not grow up. Want to fly? We can fly? Really fly? Tell her I miss her and I love her. Beware, children. You can leave yourself behind. You won't even know when it happened. This is where lost boys go when they're really lost. All children grow up. But some, the wild ones, the ones with a light in their eye.